On a longtemps considéré les antibiotiques comme un produit miracle, mais aujourd'hui, cette période semble révolue. Le développement de résistance de plus en plus nombreuses montre que ces médicaments ont perdu de leur efficacité. Les cas d'infection se multiplient, les superbactéries laissent les médecins démunis. Et parallèlement à ce constat, la recherche n'avance plus avec un nombre très limité de nouvelles molécules lancées sur le marché. Mais les Français adorent les antibiotiques et les chiffres montrent même que la consommation de notre pays a progressé de 6% entre 2010 et 2013. Le professeur Antoine Andremont publie un ouvrage intitulé « Antibiotiques, le naufrage » aux éditions Bayard. Il vient nous en parler dans La Tête au Carré avec à ses côtés le professeur Bernard Meunier qui s'intéresse à l'innovation thérapeutique. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue. Bonjour. Antoine Andremont, vous êtes professeur à la faculté de médecine de l'Université Paris-Diderot, chef du service bactériologie de l'hôpital Bichat-Claude Bernard. Et dans ce livre que vous publiez, vous nous alertez donc sur les conséquences sanitaires de l'abus d'antibiotiques. Professeur Meunier, vous êtes quant à vous directeur de recherche émérite au CNRS, membre de l'Académie des sciences, titulaire de la chaire innovation technologique Liliane Bettencourt au Collège de France. Et vous avez donné votre leçon inaugurale le 6 novembre dernier. Grandeur et décadence d'un médicament miracle, les antibiotiques. Donc cet après-midi, j'attends bien sûr vos questions et vos témoignages qui arrivent déjà sur franceinter.fr et sur les réseaux avec le mot-clé l'attaque et puis notre quiz dans la dernière partie de l'émission avec Florence Porcel. Vélène Ballet réalise cette tête au carré qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Voilà, Antoine Andremont et Bernard Meunier, je vous présente notre docteur, Dominique Dupagne, qui est avec nous tous les mardis. Quelle est l'actualité qui a retenu votre attention cette semaine, Dominique ?
Bien Mathieu, j'ai choisi un article de John Ioannidis publié dans la revue PLOS Médecine et qui est intitulé « Comment faire pour que plus d'études publiées soient fiables ?» Ioannidis est professeur à Stanford, il avait publié en 2005 un article iconoclaste intitulé « Pourquoi la plupart des recherches publiées sont fausses ?»
Allons bon.
Son nouvel article commence par décrire brièvement l'étendue de la fraude et de la médiocrité des publications scientifiques biomédicales.
Il faut dire qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, quand
oui,
même.
Oui, mais pas uniquement, pas uniquement. Ioannidis rappelle que sur 25 millions d'études biomédicales publiées depuis 15 ans, une part infime a vraiment fait avancer la science. En fait, l'immense majorité de ces papiers sont au mieux sans intérêt et au pire frelatés. L'édition scientifique est un monde sans foi ni loi où le copinage, le conservatisme, le népotisme et même le sexisme règnent en maître. Publié fait finalement beaucoup plus avancer la carrière des auteurs que la science elle-même.
Bon.
Alors, ce nouvel article n'aurait pas grand intérêt s'il se contentait de rester justement dans la critique pure. Mais comme son titre l'annonce, l'auteur est passé au stade des propositions, d'autant qu'il co-dirige depuis peu le Metrix, une institution américaine dédiée à l'amélioration de la qualité de la recherche scientifique. Et ses propositions, je les trouve plutôt intelligentes.
Alors, quelles sont-elles, Dominique ?
Tout d'abord, il appelle à une meilleure coordination des travaux qui portent sur le même thème. Mieux vaut une grande étude rigoureuse portant sur un grand nombre de sujets plutôt que des travaux dispersés qui manquent de puissance statistique. Cette coordination paraît indispensable et il faudra sans doute une autorité régulatrice un peu puissante et un peu respectée. Ça ne va pas être facile. Ensuite, du fait de l'omniprésence de la fraude, il devient nécessaire de faire reproduire et donc valider par une équipe indépendante les travaux qui sont publiés, surtout lorsqu'ils impactent la santé publique.
Un exemple, il y a 15 jours d'ailleurs, avec l'étude sur le dépistage du cancer du poumon.
Exactement, cette histoire de prise de sang qui permettrait un dépistage à 100% des cancers du poumon, ça paraît presque trop beau pour être accepté sans confirmation. Mais pour stimuler les vérifications, il faut valoriser les chercheurs qui se collent à cette tâche ingrate, y compris et surtout quand ils ne retrouvent pas les résultats obtenus dans l'étude originale. Or, ce n'est pas du tout le cas actuellement. On pourrait même imaginer que, comme dans les sciences fondamentales, la publication d'un travail aux conclusions un peu trop surprenantes soit subordonnée chaque fois que possible à une telle vérification préalable. Ioannidis attaque ensuite le point qui fâche, parvenir à évaluer correctement l'apport et la qualité des publications. Il s'agit d'éviter de voir des petits malins publier à tour de bras des travaux sans intérêt ou douteux qui leur permettent d'accéder rapidement et de façon injustifiée à des postes de chercheurs qui sont très convoités. Quand on connaît bien le système d'évaluation actuel des publications, il est facile de le pervertir en multipliant par exemple les articles autour du même travail.
Une telle révolution vous paraît vraiment possible ?
Bah oui Mathieu, tout à fait. Il suffit de le vouloir et de s'en donner les moyens. Et je ne vous parle pas d'argent hein, parce que la situation actuelle de dispersion et de médiocrité des publications, ça finit par coûter des fortunes. Le problème, c'est que pour en arriver là, il va falloir bousculer un nombre considérable de situations acquises, de privilèges, de rentes de situation ou tout simplement de mauvaises habitudes. Et nous savons tous que c'est bien sûr très difficile. En fait, c'est en mettant la pression sur les décideurs que nous pouvons espérer y arriver. Et il faut soutenir ceux qui, comme John Ioannidis, secouent de toute leur force le cocotier au risque de se prendre des trucs sur la tête.
Ouais, j'aimerais bien aimé avoir l'avis de nos invités, professeur Andremont et Meunier, justement, sur la fiabilité de ces études biomédicales, donc, dont vous disiez qu'elles étaient sans intérêt, au pire frelatées. Professeur Andremont, qu'est-ce que vous en pensez ?
Il me semble que ce discours est un peu exagéré. Il y a un système qui permet de savoir ce qui est bon de ce qui l'est moins dans les publications médicales. C'est le nombre de fois où les travaux sont cités ultérieurement. Et actuellement, c'est beaucoup plus ce critère de citation des travaux, donc d'une espèce d'évaluation par l'ensemble de la communauté.
Et ça marque l'intérêt réel d'une publication pour vous ?
Et ça marque l'intérêt réel d'une publication.
Professeur Meunier ?
D'abord, l'Académie des sciences est très attachée effectivement à la qualité des publications et on encourage les chercheurs, y compris dans le domaine biomédical, il y a un certain nombre de médecins à l'Académie des sciences, on encourage les chercheurs vers la qualité et l'excellence. Je crois que ce qui est un peu difficile dans les recherches biomédicales, contrairement aux recherches fondamentales, en chimie, reproduire l'expérience d'un collègue, c'est souvent 3 mois de travail maximum avec 2 ou 3 personnes. Mais si vous voulez reproduire une étude de phase 3 ayant porté sur 5000 ou 8000 patients, recruter pour certaines maladies, c'est un peu compliqué.
Il faut des moyens considérables.
Donc, il faut des moyens considérables. Et je pense que c'est plus sur, filtrer les compétences et laisser accéder au domaine de la publication que des gens qui ont déjà un parcours scientifique validé pour éviter d'avoir un peu trop de laisser-aller peut-être, mais qui n'est pas peut-être aussi étendu que vous avez bien voulu dire.
25 millions de publications. Exactement.
Une conclusion sans papier. Il faut quand même signaler, que pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, que le Pierre Barthélémy, notre collègue qui a l'excellent blog Passeur de Science, a fait une synthèse de l'étude de l'OANIDIS. Les deux liens sont sur le site de l'émission.
Voilà, donc la tête au carré, franceinter.fr. Merci docteur Dupagne, à la semaine prochaine. Les antibiotiques, c'est notre dossier dans un instant.
Gold finger. He's the man with the Midas touch. A spider's touch. A cold finger beckons you to enter his web of sin. But don't go in. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He
Goldfinger, Shirley Basset sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Les professeurs Antoine Andremont et Bernard Meunier sont mes invités cet après-midi pour un dossier consacré aux antibiotiques. Ces médicaments miracles sont-ils aujourd'hui totalement dépassés par les résistances qu'ils ont créées? On en parle avec vos messages et vos questions. Franceinter.fr, le mot-clé, l'attaque sur les réseaux sociaux. Antoine Andremont, vous êtes expert international dans le domaine de l'étude de la résistance des bactéries aux antibiotiques. Vous avez conduit des études pour l'OMS et vous publiez donc cet ouvrage « Antibiotiques, le naufrage » chez Bayard. Il y a quelques mois, la chef de la santé britannique Sally Davis déclarait que la résistance aux antibiotiques constituait pour l'humanité, je cite, « une menace globale catastrophique au même titre que le terrorisme ou le réchauffement climatique ». Vous partagez ce constat pour le moins alarmant ?
C'est sûr que la phrase de Sally Davis est extrêmement forte, hein, mais elle décrit une vraie réalité qui résulte de deux choses. La première, c'est que dans le monde, la consommation d'antibiotiques continue à augmenter de façon extrêmement frappante, et que donc les bactéries deviennent de plus en plus résistantes. Et pendant très longtemps, ce phénomène ne nous inquiétait pas beaucoup, parce qu'on avait sans arrêt des nouveaux antibiotiques. Mais comme on n'a plus de nouveaux antibiotiques, on arrive au moment où c'est le bout du chemin, où les bactéries ont presque rattrapé tous les antibiotiques que nous avons à notre disposition. Et donc, la situation est effectivement extrêmement inquiétante.
Oui, entre cette course donc résistance des bactéries et proposition de nouveaux antibiotiques, hein, Bernard Meunier. C'est ça le problème, au fond, auquel on est confronté aujourd'hui?
Oui, avec la différence, c'est qu'on a eu la période des 30 glorieuses pour les antibiotiques, des années 1945 jusqu'à 1975.
Voilà.
C'était nos 30 glorieuses pour les antibiotiques. Ouais. Et puis maintenant, on est dans les 30 un peu pas du tout glorieuses. On a beaucoup de difficultés à trouver de nouveaux antibiotiques, de nouveaux mécanismes d'action, de nouvelles molécules. Et effectivement, il y a une pénurie dans ce domaine. Et beaucoup de grands groupes pharmaceutiques, devant la difficulté et devant les échecs et les tentatives, se sont retirés du marché des antibiotiques.
Donc ça veut dire que
c'est
un
domaine orphelin.
Et
pourtant, la lutte contre les bactéries, ce n'est pas une maladie orpheline.
Ouais. Ça veut dire que les bactéries sont plus malignes que les industriels du médicament, en fait.
Non, mais c'est surtout que les bactéries sont plus malignes. Ça fait bien plus longtemps qu'elles s'adaptent au milieu, environnement. Et donc, quand vous les soumettez à un petit stress avec des antibiotiques en faible quantité, ce qui est la pire des choses, à ce moment-là, vous les titillez et vous avez des bactéries qui résistent.
Ouais, Jean-Paul, justement, dans un message sur franceinter.fr, y a-t-il jamais eu un âge d'or des antibiotiques, âge d'or où rien ne leur résistait? Ou bien ce dont on parle médiatiquement aujourd'hui, la résistance, n'est-il pas inhérent à l'usage de ces produits en termes darwiniens? Vous lui répondez?
Oui, la réponse est professeur tout à fait claire. L'auditeur a parfaitement raison. La résistance des bactéries est apparue dès les premiers antibiotiques. Et le grand Fleming, l'inventeur de la pénicilline lui-même, dès 1945, avait pointé les risques de la résistance.
Ouais.
Mais comme on avait des nouveaux antibiotiques, on ne s'en préoccupait pas trop.
Alors cette résistance, concrètement, elle fait aujourd'hui des milliers de morts par an en Europe. Ça a des conséquences absolument dramatiques. C'est pour ça qu'il faut s'en inquiéter aussi, bien sûr.
Bien sûr, il y a des chiffres qui sont très impressionnants, qui sont rapportés à la fois par le Centre de contrôle des maladies européen, qui fait état de 25 000 morts par an en Europe, et aux États-Unis, l'équivalent à peu près à 23 000 morts par an.
Oui. Professeur Andremont, selon vous, l'usage des antibiotiques doit être plus écologique, c'est-à-dire?
Eh bien, il faut prendre les antibiotiques comme une ressource limitée. Nous n'en avons plus de nouveaux, donc il faut épargner ceux que nous avons, comme d'autres ressources limitées.
Oui.
Et il faut recentrer l'utilisation des antibiotiques vers leur usage principal et original, qui est le soin des patients qui en ont besoin. Il y a beaucoup de patients qui reçoivent des antibiotiques de façon beaucoup trop automatique, comme on le disait à une époque.
Oui.
Et il faut arrêter de donner des antibiotiques aux patients qui n'en ont pas besoin. Et il faut aussi arrêter de donner des antibiotiques dans d'autres indications essentiellement économiques, comme en élevage ou en agriculture.
Alors si l'industrie du médicament justement rechigne aujourd'hui à entamer des recherches et du développement sur les antibiotiques, des start-up se créent, évidemment, parallèlement. Donc là, il y a des idées qui vont peut-être naître. Et il faut d'ailleurs tout de suite le dire, Antoine Andremont, comme Bernard Meunier d'ailleurs, vous êtes tous les deux responsables de start-up, c'est-à-dire que vous travaillez justement sur l'innovation dans le domaine du médicament. Antoine Andremont, allez, un mot de votre côté, comme ça au moins on aura donné votre carte d'identité complète.
Oui, effectivement, grâce à la loi sur l'innovation et la recherche, j'ai eu la possibilité de créer une start-up d'Avolterra qui essaye de trouver des médicaments qui pallient à la résistance des bactéries aux antibiotiques.
Vous avez trouvé ou pas?
Écoutez, on est en phase d'essai.
Ouais.
On peut pas encore.
Quelle phase ?
On est en fin de phase 1, on sera en début de phase 2 l'année prochaine.
Bernard Meunier, de votre côté, c'est Palumed, c'est ça que vous avez créé en 2000.
On a essayé de nouveaux antibiotiques qui marchaient très bien in vitro, in vivo, sur des modèles d'infection de souris. Par contre, la fenêtre de sécurité, c'est-à-dire la différence entre la dose active et la dose toxique chez le rat, n'était pas suffisante. Et dans les antibiotiques, on ne s'en rend pas compte, mais ce sont des molécules qui ont un indice de sécurité extrêmement élevé.
Ouais.
Voilà, ça c'est le côté magique des antibiotiques. On peut en prendre des quantités importantes sans qu'il se passe quoi que ce soit.
Ouais, c'est ce qui a fait le succès d'ailleurs de ces molécules au tout départ. Hein. Ça a été
succès,
ce constat évidemment.
Quand les molécules sont trop faciles à utiliser, on les utilise d'argamanu un peu trop. Et voilà.
Ouais.
Je voudrais revenir sur le chiffre. 80% des antibiotiques sont utilisés dans le marché de l'élevage.
Ouais. On y reviendra.
Je pense que là, ça c'est un problème
évidemment.
Sur lequel l'Europe s'est déjà penchée. Et les États-Unis devraient se pencher également.
Avec des mesures qui ont été prises en ce qui concerne l'Europe, mais pas du côté de nos cousins américains.
Hein. Ils sont un peu réticents, ils aiment bien la
viande. Ils aiment bien manger de la viande avec des antibiotiques.
Avec des antibiotiques. Voilà. C'est surtout les petites quantités d'antibiotiques.
On y reviendra parce que quand même, les élevages reçoivent aussi en Europe des antibiotiques, sauf que les éleveurs doivent s'arrêter à un moment avant de tuer l'animal. Alain nous dit ceci, les coûts de recherche en développement et les risques juridiques encourus pour les nouvelles molécules n'encouragent pas les labos qui sont dans des entreprises capitalistes à investir justement sans perspective de gros retours. Est-ce que c'est l'un des problèmes aussi, Bernard Meunier, ou pas ?
C'est en partie un des problèmes, c'est vrai. L'industrie pharmaceutique moderne n'est plus une industrie familiale de petites start-up créées par des pharmaciens dans les années 50 et avec une gestion familiale où on assumait du risque sur la fortune personnelle. On est maintenant dans un système où il y a une rentabilité des capitaux qui est très importante et donc le risque la possibilité d'avoir trop d'échecs sur un domaine thérapeutique fait que les grands groupes. Je crois qu'il faut revoir effectivement le financement de la recherche dans le domaine de ce que je vais appeler les maladies quasi-orphelines, c'est-à-dire les antibiotiques, mais il y a d'autres domaines thérapeutiques où les grands groupes se désintéresse. Donc là, il y a peut-être des solutions innovantes à trouver en termes de financement.
Petit retour en arrière avec ce spot diffusé en 2002 à la télé. Un bon travail de publicitaire d'ailleurs à l'époque, hein, puisque le slogan a eu un très fort impact, au moins sur ceux qui regardaient la télévision.
Dis donc, t'as l'air malade.
Oui, j'étais chez le médecin, j'ai une angine.
Et sous antibiotique ?
Non.
Donc t'es pas malade ?
Si, j'ai une angine.
Alors t'es sous antibiotique ?
Non.
Alors t'es pas malade ?
Si, j'ai une angine.
T'es sous antibiotique ?
3 angines sur 4 sont d'origine virale et se soignent sans antibiotiques. Si c'est le médecin qui le dit, vous le croirez ?
Non, donc t'es pas malade.
T'as l'air malade. T'es sous antibiotique ?
Non.
Mais il est pas malade alors ?
Les antibiotiques, c'est pas automatique. Parlez-en avec votre médecin.
Très bon slogan, hein, Antoine Andremont, à l'époque. Hein.
Oui, c'était un slogan formidable qui a amené à ce qu'il y ait à peu près un quart de la consommation d'antibiotiques en moins en France, très rapidement. Malheureusement, ce slogan a été abandonné. Et
la consommation est repartie à la hausse.
La consommation est repartie à la hausse. Peut-être les gens ont-ils eu l'impression que, puisque le slogan n'était plus là, le problème avait disparu aussi. Malheureusement, ça n'était pas le cas.
Ouais, beaucoup de courriels, comme celui d'Anne-Marie, qui nous dit ceci, que je sache, les antibiotiques ne sont donnés que sur prescription. Prescription faite par un médecin. Alors c'est bien au médecin qu'il faudrait demander d'en prescrire moins, à moins qu'il n'ait intérêt à le faire. Non, je n'ose le croire, dit Anne-Marie. Il y a beaucoup de courriels en ce sens des auditeurs. Alors c'est vrai, évidemment, c'est le bon sens.
C'est tout à fait vrai, je suis d'accord avec ça. En France, les antibiotiques sont prescrits par les médecins. Dans le reste du monde, dans beaucoup de parties du monde, c'est tout à fait différent. Mais en France, c'est vraiment la responsabilité du médecin de prescrire ou de ne pas prescrire d'antibiotiques et d'établir une relation de confiance avec leurs patients afin que lorsqu'ils n'en prescrivent pas, les patients l'acceptent volontiers.
Ouais. Alors comment on explique que depuis 4 ans, la consommation est bondie de 6%, professeur Meunier ?
C'est la pression aussi des patients qui s'exercent sur le médecin, le corps médical. Tout le monde
vous voyez les choses dans ce sens-là, vous, d'accord ?
Non, mais il y a les deux.
C'est-à-dire qu'il y a une demande très forte du public.
Il y a toujours un principe d'action et de réaction. Non, il y a aussi une demande de la part des patients. Sinon, les gens, s'il y avait une aversion pour les antibiotiques, on n'aurait pas cette demande de la part des patients. Mais je ne suis pas médecin et je pense que le médecin...
Je pense qu'il faut faire... Il faut être prudent parce que, effectivement, les antibiotiques, ça reste des médicaments miracles quand on en a besoin. Il ne faut pas que des patients qui ont besoin d'antibiotiques n'en aient pas. Ça, c'est important. Mmh. Et donc, c'est vraiment au médecin d'établir son diagnostic au mieux de son art et de convaincre, et ce n'est pas si difficile, ses patients de suivre les prescriptions qu'il fait ou la non-prescription qu'il ne fait pas.
Ouais, Knock sur franceinter.fr nous dit ceci. Vous êtes très optimiste pour ce qui concerne la responsabilité individuelle du médecin. En fait, il ne court aucun risque à prescrire des antibiotiques inutiles. Il ne fait que satisfaire les patients ignorants contre le risque de surinfection banale tout en participant à l'extension du problème collectif de la résistance aux antibiotiques. Une réaction ? Sur ce message, professeur Andremont ?
Oui, je crois là encore que c'est plein de bon sens. Il ne faut pas prescrire d'antibiotiques, non pas parce que ça va faire du mal tout de suite, très directement aux patients, mais parce que c'est mauvais pour la santé publique. Cela dit, lorsque vous donnez un antibiotique, que vous soignez le patient, l'infection, s'il en refait une après, risque d'être beaucoup plus résistante aux antibiotiques. Donc il y a quand même un risque individuel qui doit faire qu'il ne faut surtout pas prescrire d'antibiotiques quand il n'y en a pas besoin.
Et Maude nous écrit, elle est médecin généraliste. J'ai toujours été intéressée par les campagnes d'information visant le grand public, du genre justement les antibiotiques, ce n'est pas automatique, mais la cible principale ne devrait-elle pas être toujours les médecins ? Cela prend bien sûr plus de temps d'expliquer qu'il n'y a pas besoin d'un traitement plutôt que de le prescrire. Voilà, pour finir peut-être sur ce chapitre, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, autour de la responsabilité des médecins, mais des patients aussi, on l'a compris. L'histoire des sciences est toujours intéressante, parce qu'il faut revenir un tout petit peu en arrière. C'est ce que vous faites également dans votre ouvrage, Antoine Andremont. Un peu d'histoire pour comprendre la source avec les tout premiers antibiotiques. Dans quel contexte, finalement, ce médicament a-t-il été découvert au départ ?
Il a été découvert par un Anglais, Alexander Fleming, qui s'est aperçu qu'il y avait un champignon, une espèce de champignon microscopique, une moisissure, comme on dit en langage courant, qui empêchait les staphylocoques de pousser sur une boîte de pétri. Et il a eu le génie de remarquer le phénomène, de purifier le produit, et finalement c'est devenu la pénicilline.
Ouais, ça c'était dans les années 30 à peu près ?
Alors c'est dans les années 20 que l'observation initiale a été faite, et les premiers traitements par la pénicilline, c'est dans les années 40.
Ouais, et Bernard Meunier, il y a eu un prix Nobel d'ailleurs pour ça.
Il y a un prix Nobel, c'était le prix Nobel de Fleming, Chine et Florey, qui étaient les deux chimistes qui ont travaillé au départ en Angleterre entre 1938 et 1941. Et en 1941, la Grande-Bretagne n'avait pas assez d'argent pour financer toute l'innovation dans l'extraction, la culture, large échelle, toute la mise au point des méthodes de microbiologie qui ont permis ensuite aux États-Unis, quand ils sont partis aux États-Unis, de produire en grande quantité la pénicilline qui était à la disposition des GIs de l'armée américaine fin 1944.
Alors c'est ça, est-ce que justement la Deuxième Guerre mondiale a complètement boosté aussi le développement de ce médicament ?
L'histoire est très intéressante, il y a eu plus de 1000 scientifiques, chimistes, des très grands noms de la chimie américaine, plus de 1000, c'est-à-dire presque autant que dans le projet Manhattan pour la bombe atomique, qui ont travaillé sur la production de la pénicilline. Ce qui fait qu'après ce travail de guerre, si je peux me permettre l'expression, eh bien pour tous les autres antibiotiques, ça a été relativement facile derrière.
Et justement, le 6 juin 1954, 25e anniversaire de la découverte de la pénicilline, c'était célébré à l'hôpital Sainte-Marie de Paddington, en présence du prince Philippe. Et à cette occasion, Alexander Fleming offrait au prince un spécimen de la culture dont provient la pénicilline, archive.
My lords, ladies and gentlemen, this is penicillin day. I have here a specimen of the culture of the mold that made penicillin to begin with and continues to make it. There are not many of them in existence. I had the honor to give one to Her Majesty the Queen Mother some years ago. I hope you will accept another one.
Voilà. Document d'archives avec la voix de Fleming, qui décédera l'année suivante d'ailleurs, 6 juin 1954. La pénicilline, donc en tuant les bactéries sans agresser le corps du malade, ça c'est ce progrès-là, professeur Andremont, qui est considérable à l'époque.
Oui, c'est ça qui est extraordinaire avec les antibiotiques, c'est qu'ils tuent les bactéries et ils ont très peu d'effets secondaires, comme on dit, des petits effets secondaires parfois, mais... pas trop. Et donc, c'est ça qui a fait leur succès. Vous pouviez en donner très facilement sans avoir peur de faire du mal aux patients.
Ouais.
Et la résistance, elle, est le vrai effet secondaire des antibiotiques, mais il n'apparaît pas simplement aux yeux des gens.
Ouais. Et donc, il va falloir passer à l'échelle industrielle, hein, professeur Meunier, très rapidement, évidemment, pour répondre à la demande et puis explorer cette mine d'or. Hein.
Mais très vite, tous les grands groupes pharmaceutiques se sont lancés, avaient tous un département antibiotique dans les années 1950-1960. On a couru le monde entier pour trouver des antibiotiques. C'est l'arsenal que l'on a actuellement. On a à peu près une centaine d'antibiotiques à notre disposition. Mais depuis, on a écumé tous les pays de la Terre pour trouver des streptomycètes. Ça, c'est un peu partout, voilà.
Allez, on s'en
faudrait juste faire un petit point historique, c'est qu'on l'oublie, mais la tuberculose, avant l'arrivée de la streptomycine en 1950 et le rimifant, était une maladie qui tuait beaucoup de gens et qui était un véritable fléau dans les pays développés. L'arrivée de ces antibiotiques avec le rimifant, qui est une toute petite molécule, l'isoniazide, a totalement changé la donne au point de vue. Et là, on a maintenant des souches de tuberculose résistantes.
Qui reviennent.
Et pourquoi ? Parce que 6 mois pour traiter un patient, 7 mois, 8 mois, et dans certains pays, les gens abandonnent, quittent, et on se retrouve avec des souches qui ont vu des antibiotiques, qui n'ont pas été éliminées chez le patient, et donc on a créé de la résistance. Donc, un nouvel antibiotique pour la tuberculose, ça serait quelque chose qui serait capable de guérir la tuberculose en 2 mois, 3 mois. Mmh. Voilà le rêve pour un créateur d'antibiotiques.
Allez, on se retrouve dans un instant. Professeur Andremont et Meunier avec les messages nombreux des auditeurs sur franceinter.fr, mais également sur les réseaux, vos messages courts avec le mot-clé « l'attaque ». Le temps d'écouter Jean-Louis Murat, j'ai fréquenté la beauté.
J'ai fréquenté la beauté tout le mois de juillet, pauvre cœur, je manquais d'amour. J'ai fréquenté la beauté chaque jour abreuvé à l'illusion des toujours. L'amour qui s'est dévoué, qui nous jette au panier, pleurnichant route de la tour. L'amour qui sait nous tromper, jamais sûr d'être aimé par les rondelles des faubourgs. J'ai fréquenté la beauté, je n'en ai rien gardé. Fréquenter la santé, chaque matin le lait, cœur humide, je n'aurai l'amour. J'ai fréquenté la santé, par les champs, les forêts, partout où me menait le jour. Derrière la balle aux forêts, nuit parmi les genêts, je suivais la cave à l'amour. J'ai fréquenté la santé, les éboires et manger pour les rondelles des faubourgs. J'ai fréquenté la santé, je n'en ai rien gardé. Tout un mois de janvier, nuit et jour, il neigeait autour. J'ai fréquenté la beauté sur la baie, à l'enchaînement des toujours. Au luxe qui garde le corps, sans regret, sans remords, sous la cascade qu'elle adore. J'ai fréquenté la gaieté, mais je n'ai rien gardé de l'hirondelle du faubourg. J'ai fréquenté la gaieté, je n'en ai rien gardé.
Sur France Inter.
Allez, dossier antibiotique cet après-midi dans l'émission. Mes invités, les professeurs Antoine Andremont et Bernard Meunier. Antoine Andremont, vous publiez donc Antibiotiques, le naufrage, notre santé en danger. C'est aux éditions Bayard. Et puis, professeur Meunier, on peut quand même parler aussi de vos cours au Collège de France. Là, il y a eu cette leçon inaugurale donc, le 6 novembre. Vous avez donné un cours hier, d'ailleurs, sur le thème qui nous intéresse aujourd'hui, sur l'innovation, c'est ça ?
Sur l'innovation thérapeutique, c'est le thème de la chaire annuelle. pour cette année. Je suis assez heureux. Je vais décliner la semaine prochaine le paludisme. Oui. On parlera de la tuberculose, on parlera thérapie génique, thérapie cellulaire, voilà, maladie d'Alzheimer. Voilà.
On peut aller sur le site du Collège de France, il y a toutes les infos. Il faut taper Bernard Meunier et on trouve absolument tous vos cours. Le prochain, c'est le 24 novembre, donc à 16h, à l'amphithéâtre donc, du Collège de France sur les maladies tropicales. Beaucoup de questions des auditeurs. Jacques nous dit ceci. La résistance des bactéries aux antibiotiques est de plus en plus forte. Quelles conséquences sur les organismes, professeur Andremont, précisément? Comment ça fonctionne?
Alors, les bactéries font comme s'il n'y avait pas d'antibiotiques autour d'elles. Elles continuent à vivre quand elles sont résistantes, comme s'il n'y avait pas d'antibiotiques autour d'elles. Et donc, si elles causent une infection, c'est-à-dire qu'elles se multiplient dans une partie de vos tissus et que vous essayez de les traiter avec les antibiotiques, ben, elles continueront à se multiplier et l'infection à se développer.
Mmh. C'est ce qu'on constate aujourd'hui, donc?
Alors, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, bien sûr, dans un certain nombre de circonstances où on n'avait pas de problème thérapeutique. Si vous prenez par exemple des infections très fréquentes comme les infections urinaires, comme les prostatites, on avait une kyrielle d'antibiotiques pour traiter ces patients et on était vraiment dans le confort antibiotique, c'est-à-dire ouais. qu'on ne se préoccupait pas de savoir si ça allait pas marcher. Or maintenant, dans un certain nombre de cas, on se demande si le traitement antibiotique qu'on prescrit va être efficace ou non.
Ouais. À quel moment justement le miracle dont on parlait tout à l'heure autour des antibiotiques s'est banalisé au fond? Et à quoi ça correspond? Est-ce que c'était justement des prescriptions trop longues de ces médicaments?
Non, je ne crois pas. C'est dès le début ça a été miraculeux. Donc on s'est mis à utiliser, et à juste raison, les antibiotiques très rapidement dans le monde entier pour traiter toutes les infections qui en avaient besoin, mais aussi pour des patients qui n'en avaient pas besoin, parce que par exemple, oui. ils avaient un paludisme, mais ils n'avaient pas une infection bactérienne, ou ils avaient une grippe, et ils n'avaient pas une infection bactérienne. Et donc, au même moment, on s'est mis à vouloir élever les animaux de façon beaucoup plus intense, dans des fermes beaucoup plus grandes, dans des conditions beaucoup plus tassées, on pourrait dire. Et on s'est dit qu'on avait besoin d'antibiotiques aussi chez ces animaux, pour permettre qu'ils soient élevés dans ces conditions très artificielles.
Oui, professeur Meunier.
Je vois qu'il y a eu des très belles expériences faites récemment par Patrice Covalin de l'Institut Pasteur, qui est un spécialiste de la résistance aux antibiotiques. Effectivement, si vous donnez à une souris quelques bactéries résistantes et que vous lui donnez un peu de tétracycline dans l'eau qu'elle va utiliser pour boire, eh bien, vous regardez dans les fesses et il y a multiplication des bactéries. Donc, à très petite dose, et c'est, je crois, là le gros problème de l'utilisation des antibiotiques, ces antibiotiques stimulent les bactéries et les résistances s'échangent entre les bactéries.
À très petite dose.
À très petite dose. Mmh. Et je crois que le problème des résistances à l'antibiotique, c'est les petites doses. Gardons les antibiotiques pour les utiliser, pour ils ont été créés, c'est-à-dire traiter une infection importante.
Ouais. Mais le problème, c'est qu'on l'a bien oublié, effectivement, depuis. Jean-Luc nous dit ceci. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a de plus en plus d'infections au clostridium suite à la prise d'antibiotiques? Ma fille a eu cette bactérie pour se soigner une angine. Il a été très difficile de s'en débarrasser.
Alors, cet auteur réfère à une maladie très précise qui s'appelle la colite à clostridium difficile. Et cette bactérie, clostridium difficile, effectivement, se multiplie dans les intestins qu'entre votre propre flore, votre propre microbiote, vos bonnes bactéries sont détruites par le traitement antibiotique. Ouais. Et c'est une maladie qui est potentiellement grave, non pas tant chez les enfants comme c'est le cas évoqué ici, mais plutôt chez les personnes âgées. Et aux États-Unis, on dit qu'il y a 13 000 morts par an dues à cette infection à Clostridium difficile. Et c'est d'ailleurs l'objet d'intenses innovations et de recherches pour combattre cette maladie.
Alors, selon l'OMS, en tout cas, la majeure partie des antibiotiques vendus dans le monde sont destinés à l'élevage. Et ça, on a tendance à l'oublier.
80%.
80%.
80%.
Ouais. Donc là, il y a un effort monumental à faire dans ce domaine-là.
Je crois
qu'en priorité,
il faut revoir certaines méthodes d'agriculture. L'Europe est en avance dans ce domaine, mais les échanges de volailles, poulets, autres bovins qui sont élevés dans des pays avec d'autres manières méritent discussion.
Oui, professeur Andremont, pour répondre à Pipa sur franceinter.fr, qu'en dit-il donc de ces antibiotiques absorbés par les animaux pour pallier à leur promiscuité jusqu'à l'asphyxie des élevages industriels?
Alors, effectivement, c'est peut-être difficile de d'élever les animaux dans de telles conditions avec beaucoup moins d'antibiotiques. Encore que les Hollandais, qui consommaient beaucoup d'antibiotiques en élevage, ont fait une action très forte et au cours des 7 dernières années ont diminué leur consommation d'antibiotiques dans les élevages des 2/3, hein, de 63% exactement. Oui. Donc c'est possible d'élever des animaux de façon industrielle avec beaucoup moins d'antibiotiques. Et je pense que, comme le disait...
Il y a des pays qui le font déjà, hein, en Europe en particulier.
En Europe, et ceux qui avaient une consommation élevée, comme les Hollandais, ont vraiment pris des mesures très importantes. Et comme le disait M. Meunier, c'est vraiment là où il faut faire porter le principal de l'effort pour réduire la pression de sélection sur les bactéries.
Alors comment ça se passe aujourd'hui? Parce qu'au niveau européen, effectivement, il y a des réglementations très précises qui ne sont pas d'ailleurs du tout les mêmes aux États-Unis, on le disait tout à l'heure. Donc qu'est-ce qui se passe au moment où un éleveur va décider de tuer un animal? Il doit arrêter combien de temps à l'avance l'injection d'antibiotiques, hein?
Non, mais actuellement, en Europe, on demande aux éleveurs d'utiliser les antibiotiques lorsque les animaux en ont besoin. Il y avait une pratique dans l'élevage qui consistait à donner des petites quantités d'antibiotiques parce que à certaines doses, les antibiotiques favorisaient la prise de poids. Donc c'est quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'action antibactérienne. Mmh. Donc réservons donc les antibiotiques pour ceux... Et c'était traiter les maladies infectieuses déclenchées par les bactéries et rien d'autre.
Oui, professeur...
Il faut changer les méthodes les pratiques d'élevage. Je pense qu'on y arrivera. Il n'y a pas de raison que certains pays, comme ça vient d'être cité en Hollande, sont dans l'exemplarité et on va le suivre. Je crois que ce sera dur avec certains pays. Les États-Unis n'ont pas cette habitude jusqu'à présent. Le rapport à la nourriture n'est pas tout à fait le même aux États-Unis par rapport à certains pays européens.
Professeur Andremont, les médicaments génériques ont aussi leur part de responsabilité dans l'explosion de la résistance?
Alors évidemment, il est bien démontré que lorsqu'un antibiotique devient très bon marché parce qu'il devient générique, la consommation augmente. Il y a plusieurs études qui le montrent.
Et dans le domaine de l'élevage également?
Et dans le domaine de l'élevage encore plus.
Oui.
Et c'est sûr qu'au début des années 2000, quand les antibiotiques très puissants comme les céphalosporines ou les fluoroquinolones sont devenus génériqués, et que d'immenses usines de génériques ont été mises en œuvre dans un certain nombre de pays émergents, les consommations ont beaucoup augmenté et des utilisations qu'on ne pouvait pas faire avant en élevage parce qu'elles étaient trop chères se sont mises à être extrêmement fréquentes. Comme par hasard, c'est dans ces endroits-là et à ce moment-là qu'on a vu émerger les nouveaux phénomènes de résistance qui sont si ennuyeux au jour d'aujourd'hui.
Vous parlez des poussins, par exemple, qui reçoivent des injections juste après l'éclosion, voire directement dans l'œuf, en même temps que les vaccins. Donc effectivement, il ne faut pas s'étonner que des bactéries résistantes se propagent dans les élevages et se retrouvent du coup aussi dans l'alimentation, non?
Alors effectivement, l'utilisation des antibiotiques, pour prendre cet exemple, dans la filière aviaire, amène à ce que les produits issus des poules et des poulets, la viande, les carcasses, soient très couvertes de bactéries résistantes.
Ouais.
Et quand vous achetez un poulet, très souvent, vous achetez en même temps des bactéries résistantes que donc vous allez amener chez vous, dans votre cabas.
Ouais.
Et bien sûr, vous allez cuire le poulet, donc les bactéries qui sont sur le poulet, elles vont mourir, mais avant, vous en aurez répandu sur vos mains, vous aurez mis sur dans votre cuisine, bref.
Bon, c'est totalement effrayant ce que vous décrivez là.
C'est une des façons qu'ont les bactéries de rentrer dans nos cuisines.
Bernard Meunier, est-ce qu'il y a des règles pour justement s'en prémunir ou pas?
Ah ben, je pense qu'il faut faire attention, effectivement. Alors, il faut dire tout de même une chose, c'est que les bactéries résistantes, face à des bactéries saines, sont souvent en position défavorable. Donc, on pourrait presque dire que s'il y a quelques bactéries sur votre paillasse lorsque vous préparez votre poulet ou votre coq au vin, elles vont éviter la prolifération des bactéries résistantes. Non, mais au-delà de là, il est évident qu'il faut probablement bien faire cuire les aliments pour éviter des viandes crues venant d'origine douteuse et bizarre.
Goya nous envoie ce message: j'ai élevé mes deux filles en Hollande, en Suisse, en Angleterre. Dans ces pays, on ne leur prescrivait pratiquement jamais d'antibiotiques lorsqu'elles avaient mal à la gorge ou des petites grippes enfantines. Et je me souviens qu'on leur faisait toujours un prélèvement dans la gorge qui se soldait souvent par une prescription d'aspirine ou de sirop. J'étais très surprise de voir qu'à la même époque, tous les enfants de mes amis vivant en France étaient soignés à coups d'antibiotiques et même de cortisone dès qu'ils avaient un petit refroidissement. Qu'est-ce que ça vous inspire, professeur Andremont?
C'est vrai qu'il y a une habitude d'utiliser plus d'antibiotiques dans les infections ORL, les angines, les otites en France que dans les pays que vous avez cités. Alors, la Caisse nationale d'assurance maladie met à la disposition des médecins généralistes des tests
Alors
pour
c'est
les
ça,
angines.
Parce que l'intérêt, c'est de savoir à quel moment on doit les utiliser ou pas,
ces médicaments. Il faut les utiliser, ces tests, ils sont gratuits. Le problème, c'est que ça prend du temps dans une consultation et donc, c'est pas si facile pour les médecins généralistes qui sont parfois surchargés d'intégrer ça dans leur démarche. Mais c'est sûr que d'avoir des tests comme ceux qui sont disponibles, voire d'autres dans l'avenir, est une des clés pour réduire la consommation d'antibiotiques.
Allez, deux messages de Luc et de Frédéric sur la phagothérapie, développée par exemple en Russie de longue date. Est-ce que ça n'est pas une voie d'avenir en attendant de nouveaux antibiotiques? Il faut rappeler ce que c'est la phagothérapie peut-être, professeur
Meunier. Il y a des bactériophages qui infectent les bactéries et qui les éliminent. Par contre, ces bactériophages peuvent... Il y a des exemples d'utilisation pour les grands brûlés. Mais il y a des domaines où c'est difficile parce que les bactériophages ont tendance à être rapidement dégradés avant d'atteindre les bactéries. Donc en application topique, par exemple, pour ce que je viens de citer pour les grands brûlés, il y a des applications. On ne peut malheureusement pas généraliser pour toutes les infections bactériennes.
Ouais. Alors comment on peut stimuler l'innovation dans le domaine thérapeutique aujourd'hui ? Professeur Meunier, c'est votre rayon, ça.
Je crois qu'il faut être inventif au point de vue financement de la recherche et en particulier financer ce qu'on appelle en jargon des start-up la vallée de la mort, c'est-à-dire la période qui va du préclinique réglementaire où il faut commencer à accumuler des dossiers pour expliquer les propriétés.
On trouve où cet argent alors? C'est quoi la bonne idée?
Pour l'instant, on ne le trouve pas.
Et on fait comment
alors? On va trouver des solutions. Alors,
il y a des pistes qui sont proposées.
Il faut inventer. Actuellement, en Angleterre, il y a plusieurs personnes qui ont dit, calculons, le marché des antibiotiques, c'est 40 milliards par an. Ouais. 40 milliards.
Rien que ça.
Si vous faites une taxe de 1%, c'est 400 millions...
Pour la recherche.
Pour la recherche, voilà. Et après, vous mettez ça dans une fondation à but non lucratif qui permettra de financer. Et une fois que les grands groupes pharmaceutiques racheteront les molécules à la sortie de ce qu'on appelle la phase 2A, lorsqu'on aura déjà traité les premiers patients. Après, l'argent reviendra dans la fondation qui resservira à financer d'autres projets thérapeutiques.
Voilà une bonne idée pour l'innovation thérapeutique dans le domaine du médicament et des antibiotiques en particulier. En tout cas, il est nécessaire de pouvoir informer pour que chacun puisse prendre conscience, en tout cas, professeur Andremont, de l'importance de réduire l'utilisation de ces antibiotiques.
Oui, je crois que c'est ça le point essentiel. En attendant que les systèmes extrêmement vertueux et qui vont être très bienvenus, qui viennent d'être évoqués, soient en place, je crois qu'il faut appuyer sur le frein dans la commune. Et ça, c'est facile. Il faut un peu de volonté, il faut un peu de volonté politique, il faut un peu de volonté internationale, mais je pense qu'on y est.
Et ce livre, Antibiotiques, le naufrage, notre santé en danger, préfacé par Bernard Kouchner, professeur Antoine Andremont, c'est aux éditions Bayard. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus cet après-midi dans la tête au carré. Merci beaucoup aux auditeurs pour les très nombreux messages. Vous pouvez d'ailleurs poursuivre vos témoignages et vos échanges en ce moment même. Ça fonctionne 24 heures sur 24, c'est l'intérêt d'Internet, sur franceinter.fr et sur la page de la tête au carré. Trying to get back to the start. No, you. C'est Julia Stone, Heartbeat Slow sur France Inter, bien sûr. Et je retrouve Florence Porcel pour un nouveau quiz scientifique. Bonjour Florence.
Bonjour Mathieu.
Avec bien sûr de nouveaux candidats
bien
en
sûr.
Ligne. Avec nous aujourd'hui, il y a...
Il y a Marie et Julien, bonjour.
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 Bonjour Marie, vous habitez à Albi dans le Tarn.
Oui.
Et vous êtes retraitée, c'est ça hein?
Oui.
Qu'est-ce que vous faisiez?
J'étais professeur de biotechnologie.
Très bien. Et face à vous se trouve Julien, que je vous présente et qui habite, lui, à Toulouse.
C'est
Julien,
ça.
Vous êtes étudiant en histoire.
Voilà, en fin de licence, exactement.
Bon,
c'est ça.
Est-ce que vous avez une période de prédilection ou pas?
C'est plutôt l'histoire des sciences, moi, qui m'intéresse.
Ah, bien. Alors, certainement des questions pour vous dans quelques instants. Florence, on joue avec un nouveau partenaire cette semaine.
Bah, ce sont les éditions Belin et on offrira aux gagnants le livre Micromonde, un voyage sous l'œil du microscope. Bonne chance à tous les deux.
Allez, bonne chance, on démarre avec la question d'actualité. Au sujet d'une réunion, Marie et Julien, organisée à l'Élysée, c'était le 30 octobre dernier, et qui a défini un certain nombre de mesures qui vont faciliter la vie des Français. Et l'une de ces mesures concerne la connectique. Quelle célèbre prise ne sera plus obligatoire sur les téléviseurs français? 30 secondes. Oui, oui, j'allais vous dire non, mais oui, c'est bien ça. La prise Péritel, qu'on n'utilise quasiment plus maintenant d'ailleurs, Florence.
Ben non, et d'ailleurs c'était un peu notre port USB d'avant les ordinateurs.
Hein. Oui.
Toute personne de plus de 25 ans a forcément tenté de brancher une prise Péritel dans le bon sens du premier coup.
C'était très énervant.
Oui, mais elle est caduque aujourd'hui puisqu'elle ne peut pas conduire les signaux numériques obligatoires depuis 1980 sur les téléviseurs. Elle ne devrait plus l'être à partir de la fin de cette année. Voilà,
voilà Marie, ben bravo. grâce à la prise Péritel, vous remportez 10 points. Premier point donc pour ce quiz. Julien, vous allez vous rattraper, j'en suis sûr, avec les questions de rapidité. Elles sont au nombre de 7, comme tous les jours. 1 minute 30 pour y répondre. Vous avez maintenant l'habitude de jouer avec nous, j'imagine, si vous nous suivez. Donc n'hésitez pas à bien nous donner votre réponse le plus rapidement possible pour marquer les points. 1 minute 30, on lance le chrono. C'est parti. Première question. Quel alphabet, Marie et Julien, est utilisé en mathématiques pour nommer des nombres, des fonctions ou des constantes?
Grec.
Oui, tout simplement, Marie, bravo. Quelle est la couleur associée au soufre?
Jaune.
C'est le jaune, petite avance de Julien. Comment s'appelle la doctrine qui implique une création divine de la vie et qui s'oppose à la théorie de l'évolution?
Le créationnisme.
Marie, qu'est-ce que vous avez répondu la première?
Création.
Créationnisme, allez, on vous l'accorde. Quelle construction française en forme de sphère est couverte de 6433 triangles d'acier? Allez, ça se trouve à Paris, je vous aide un tout petit peu. Grande construction, donc en forme de sphère, magnifique. et des triangles absolument partout. On peut y voir des films d'ailleurs, Florence.
Oui.
Hein.
Entre autres.
Est-ce que je vous aide, Julien?
C'est la villette d'expédition.
Oui, mais il faut préciser, Marie, s'il vous plaît.
La géode,
bonne réponse. Cinquième question, quel est l'os qui relie l'omoplate au sternum, s'il vous plaît?
La clavicule,
Marie, absolument. Autour de quelle planète tourne actuellement le satellite Europe? Et d'ailleurs, depuis toujours.
Oui.
Jupiter,
bravo. Comment appelle-t-on l'acte de se ronger les ongles? Ce sera ma septième et dernière question. Est-ce que vous connaissez le terme?
L'onco.
Vous y êtes presque, mais
c'est... Oui, vous avez tout plein de
lettres. Pas tout à fait ça.
L'oncologie?
Non. Alors Florence, vous nous donnez la réponse?
Il s'agit de l'onychophagie.
Voilà, l'acte automutilateur qui répond à une très forte anxiété en général, qui consiste donc à se ronger les ongles.
Voilà.
Alors on fait le total des points, Florence.
Alors Marie remporte 20 points dans cette manche et Julien 10.
Voilà, et le satellite qui tourne autour de Jupiter, c'est un satellite naturel et il s'agit bien d'Europe qui nous intéresse aussi parce qu'il y a de l'eau, hein, certainement.
Un océan d'eau liquide sous sa croûte glacée.
Alors est-ce qu'il y avait des questions sans réponse, Florence? Non.
Mais non, on a répondu à tout.
Tout a été parfait. Voilà donc pour le total des points. Les questions maintenant avec le mot mystère. Une question chacune à votre adversaire pour lui faire deviner un mot que vous avez sous les yeux. On va commencer avec Marie.
Avec
peut-être.
Marie, oui.
Marie, vous avez 45 secondes. Vous avez donc ce mot à faire deviner à Julien. Soyez la plus coopérante possible. Le chrono est lancé.
Il s'agit d'un nom féminin. Ce qui se produit, de lorsqu'il y a encombrement, je dirais encombrement, mais un mot plus précis, d'un particule étranger dans un vaisseau sanguin ou un vaisseau lymphatique aussi. Alors si ça se produit dans un organe majeur ou par exemple dans le cerveau, ça peut être très grave, enfin entraîner une paralysie jusqu'à la mort.
Ça peut être causé par un caillot sanguin, par exemple, Julien.
Féminin.
Oui, un nom féminin, effectivement. Pensez au caillot sanguin en particulier, je crois que ça pourrait vous aider.
C'est ça.
Et pensez au cerveau, pensez à ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là, par exemple.
J'arrive pas à le trouver. Je crois que je l'ai sur le bout de la langue, mais je n'arrive pas à le trouver.
Ou dans les poumons d'ailleurs aussi.
Dans les poumons, hein, oui.
On parle d'embolie pulmonaire, d'embolie cérébrale.
Bulle d'oxygène, alors.
C'était l'embolie, tout simplement, l'embolie. Julien. Aïe. Bon, pourtant, on avait des bons éléments de définition.
Oui, Marie avait été très bien.
Mais vous étiez dans le monde des cellules, Julien. Dommage.
J'étais pas loin.
Ça ne vous a pas emmené jusqu'à l'embolie. Allez, c'est à vous maintenant, Julien. Vous avez également 45 secondes pour tenter de faire découvrir ce mot mystère à Marie. C'est parti.
Alors, c'est un muscle allant de la pommette à la commissure des lèvres et qui est très connu par tous parce que lorsqu'on a un fou rire, on dit qu'on a mal au...
Voilà. Exactement, hausse de la pommette de la joue.
Voilà.
Les zygomatiques. Alors, le total des points, Florence, pour cette partie.
Eh bien, c'est Marie qui remporte le jeu avec 40 points. Toutes nos félicitations.
Oui, vous avez été rapide, Marie. Bravo à vous. On va vous envoyer un très beau livre qui va vous emmener sous l'œil du microscope, c'est ça,
Mais
Florence,
oui, ça s'appelle Micromonde, des éditions Belin. Et c'est plein de photographies très colorées de l'infiniment petit. Voilà, c'est très joli.
Voilà, on vous l'envoie donc à Albi dans le Tarn.
Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir joué. Julien, bon courage dans la suite de vos études.
Merci.
Et puis on reste en contact sur les ondes via la tête au carré. À très bientôt, bonne journée.
Bonne journée à tous les deux.
Aussi, au revoir.
Au revoir. Et n'oubliez pas de vous inscrire franceinter.fr si vous souhaitez jouer avec nous. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Un événement dans un instant dont vous allez nous parler dans Affaires Sensibles.
Et je sais que vous y serez sensible tant vous aimez le football.
Ah, j'adore.
Vous connaissez tellement bien le football. Le 8 juillet 1982.
Qu'est-ce qui s'est passé?
À Séville, s'est passé une tragédie, mais une véritable tragédie sportive.
Oui,
France-Allemagne.
Oui.
Bah, l'Allemagne a gagné, s'est qualifié pour la Coupe du Monde.
Et vous en gardez un amer souvenir.
Terrible, un joueur français sorti dans le coma, figurez-vous. Nous en parlerons avec Pierre-Louis Bass. Ce journaliste écrivain qui a écrit le livre Séville 82, le match du siècle.
Affaires sensibles après les infos. Salut Fabrice.